Bonjour à toutes et à tous, Fabien du cinéma Le Bourguet à Fort-Calquier. Le nouveau programme est paru, le numéro 90. Et on espère qu'il vous plaira comme il nous a plu de le concevoir. Il est plein de connexions, de fils rouges, de thématiques, de correspondances. Voilà, une grande variété, on l'espère, un bel équilibre à la fois quant aux films proposés, quant aux soirées et aux séances spéciales aussi. C'est assez riche. Vous le découvrirez dans les prochaines semaines, avec notamment, on vous le dit d'ores et déjà, des rendez-vous qui nous tiennent à cœur, notamment cette première soirée consacrée aux cinéastes du Grand Nord, Anastasia Lapsuy et Marcou Lemouscalio. C'est un cycle conçu avec Pascal Privé, des rencontres cinéma de Manosque. Il y aura un second rendez-vous le 29 février, où on espère ils seront présents. Venu de Finlande, rendez-vous compte, et puis peut-être même une troisième soirée fin mars, on en reparlera, en tout cas le 25 janvier, la première séance avec le film de Pascal Privé et les sept chants de la toundra, et puis une séance, une première là aussi, consacrée à Jocelyne Saab, une autre aura lieu courant avril, on y reviendra, cinéaste libanaise et qui nous importe beaucoup de faire découvrir, ça sera le 1er février, le 3 février on recevra Pierre Creton pour son dernier film en date, Un prince, et puis la séance Jean Eustache avec Mes petites amoureuses, qui est un de ses plus beaux films, un des plus touchants, un des plus personnels aussi. Et puis La Rivière, séance spéciale ce samedi 20 janvier, mais on y revient tout de suite pour vous parler donc de cette semaine, du 17 au 23 janvier, avec une semaine un peu spéciale. Vous savez que la semaine du 17 janvier, eh bien pour beaucoup de cinémas réessais en France, c'est la semaine du Festival Télérama. Avant notre arrivée à Fort-Calquier en 2016, le cinéma de Le Bourguet participait à ce festival pour lequel on a plutôt toujours été réticents en ce qui nous concerne, parce que tous les films du Festival Télérama, nous les avons programmés au cours des derniers mois, au cours de l'année 2023, sont des films qui ont largement été exposés, hein, notamment. Et quand on n'a qu'une salle, il faut bien avoir à l'esprit qu'on fait des choix drastiques. Donc, il y a des films qu'on aimerait passer pour lesquels on trouve pas de place, par souci d'équilibre parfois, et pour lesquels on peut avoir quelques remords aussi. Donc, programmer des films qu'on a déjà montrés, qui ont déjà fait largement parler d'eux, qui ont eu un vrai succès, comme ceux de la sélection du Festival Télérama, on n'est pas très chaud. Surtout que consacrer une semaine à ce Festival Télérama, ce serait faire l'impasse sur des films qui sortent aujourd'hui. Parce que quand on n'a qu'une salle, comme c'est le cas, Fort-Calquier, c'est une bonne chose, hein, eh bien les choix impliquent que quand on retient un film, quand on en programme un, eh ben on fait l'impasse sur un ou sur plusieurs autres. Donc notre choix est toujours de privilégier la nouveauté et le renouvellement de la programmation des films. Et plutôt qu'une semaine Télérama, on s'est dit, tiens, on va faire une sorte de contre-proposition, puisque le Festival Télérama est largement adopté par les cinémas R&C de la région. On va plutôt vous montrer des films à côté desquels on est passé ou qui sont provisoirement passés à la trappe au moment de leur sortie, pour lesquels on n'a pas trouvé de place. Et on va, au cours d'une semaine, se focaliser sur ces films-là, leur donner une chance, en programmer à raison de 7, par exemple, autant de jours de la semaine, leur consacrer 3 séances chacun à 3 horaires différents, et puis comme pour le Festival Télérama, proposer un tarif spécial, c'est-à-dire une séance. Systématiquement, toutes les séances de la semaine sont à 5€, et si d'emblée, dès la première séance, vous prenez un abonnement spécial pour cette semaine-là, d'au moins 4 films, eh bien vous paierez 16€, soit 4€ la séance, ce qui n'est vraiment pas cher. Il va sans dire que si vous envoyez 5 ou 6, sur présentation de cette carte d'abonnement que vous avez épuisée ayant vu 4 films, vous paierez à nouveau 4€ pour chaque film supplémentaire. Alors on lui a pas trouvé de nom à ce festival, si c'en est un, mais voilà, on revient un peu sur chaque film, on va essayer de rentrer tout ça dans l'espace et le temps qui nous sont impartis, pour vous parler donc cette semaine de 7 films, dont il nous importe aussi de dire le nom des distributeurs, parce que le contact direct en tant que programmateur, ce sont les maisons de distribution, et dans le cas des 7 films retenus cette semaine, ce sont des distributeurs avec qui on aime travailler, avec qui on a souvent des affinités, dont on suit le travail, donc je vais dire les noms de ces distributeurs. Jour de fête, Shellac, Météor, Capricci, JHR, Nour Film et Dulac. Voilà pour les distributeurs et maintenant les films La dernière reine. Alors c'est un film qui était sorti au printemps dernier, auquel on n'avait pas trouvé de place. Il est sorti le 19 avril et on est heureux de lui en accorder une. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans la sélection des films, l'idée c'était vraiment de vous proposer des films des quatre coins du monde. Donc je vais dire les pays aussi quand même de ces sept films. Algérie, Suisse, États-Unis, Chine, Chili et la France par deux fois, mais une première pour un film documentaire et la seconde pour un film de fiction, plutôt fantastique. Alors La Dernière Reine, c'est un film, c'est un premier film, parce qu'il y a beaucoup de premiers films ou de films de jeunes cinéastes dans cette sélection. C'est un film algérien et c'est un film historique, dans les deux sens du terme, pour le cinéma algérien. Le cinéma algérien se porte pas très bien, en tout cas tout le système de production sur place, de diffusion, est dans un piètre état, mais on espère qu'un renouveau s'amorce. Alors on a vu beaucoup de films algériens, de cinéastes émergents, évidemment Rabah Benzaïmech, Tariq Teguia, beaucoup de films algériens passionnants ces dernières années, mais assez peu, plutôt dans le mode cinéma indépendant, art et essai, voire même assez exigeant, on en a diffusé plusieurs d'entre eux. Là, ce qu'on vous propose, c'est un film à grand spectacle. C'est un film aussi de divertissement, qui a toutes les qualités d'un film de divertissement. C'est un film historique, en costume, c'est une épopée. C'est un film de KPDP aussi, dont l'action se situe au XVIe siècle, dont les personnages ont existé ou qui sont entourés d'un halo de légendes. Et c'est le cas des personnages de ce film. Le corsaire Harouj Barberousse libère la ville d'Alger du pouvoir des Espagnols et prend ainsi le contrôle du royaume. Et une femme, la reine, va s'opposer à cet homme-là. La reine s'appelle Zafira et elle est interprétée par Adila Bendimerad, qui est la co-réalisatrice du film, avec Damien Ounouri. Tous deux ont porté à bout de bras pendant des années ce projet, avec l'aide du ministère de la Culture algérien, avec de l'argent français, de Taïwan aussi. Ça a été une aventure au long cours, et cette aventure, eh bien, le film en porte la trace, le souffle, et vous serez sans doute emporté, comme nous l'avons été, par ce film palpitant dont cette reine Zafira est le personnage principal, et c'est un beau personnage de femme, formidablement incarné par Adila Bendimerad. Donc La Dernière Reine, pour rappel, chaque film de la semaine a trois séances. Donc ce film-là, trois séances entre vendredi, samedi et dimanche. La Dernière Reine, donc, d'Adila Bendimerad et Damien Ounouri.
كامل يسمع ولد ربي يسهل سليم
لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل آخر
حررتنا سليم
حضرك راني هنا
سليم
Le deuxième film de la semaine, Désordre. Désordre aussi, il est sorti en avril, je crois bien, au printemps dernier en tout cas. C'est un deuxième long-métrage d'un cinéaste qu'on connaissait pas du tout en France, un cinéaste suisse, et là encore, on voit assez peu de films suisses sur nos écrans. Cyril Schaublin, il avait fait un premier film en 2017 qui s'appelait « Ceux qui vont bien », qui n'était pas sorti en France à l'époque. Et ce film-là, il est peut-être intéressant pour vous en parler de dire son titre original. En suisse allemand, il porte le titre de Unruh. Unruh, ça désigne ce balancier, puisque le film se passe dans une fabrique, dans une usine d'horlogerie. Tout le film se passe vraiment dans ce milieu de l'industrie horlogère, avec tous les enjeux, tout le quotidien et tous les gestes du travail aussi que cela implique. À la fin du 19e siècle, et Unruh désigne le balancier, cette pièce d'horlogerie dont le personnage principal, une jeune femme, Joséphine, est la spécialiste, et qui est à même, avec beaucoup de précision et de délicatesse, d'apposer ce balancier dans l'horlogerie, dans le mécanisme. Sauf qu'en suisse allemand, eh bien, Unruh, c'est aussi l'agitation. Vous savez, en allemand, Ruhe, c'est être calme, c'est la tranquillité. Donc là, Unruh, c'est l'opposé de cette tranquillité, c'est l'agitation. Le ressort, ce balancier, étant dans une forme d'agitation permanente pour entretenir le mécanisme. Et Unruh, c'est aussi cette agitation, cette recherche de l'équilibre, et ce geste de précision dit bien tout ce qu'est le film à travers son dispositif, quant au fond, à l'histoire même qui est racontée, c'est-à-dire la naissance du mouvement anarchiste au 19e siècle, fin 19e siècle, sûrement dans les années 1870, un peu après la Commune, puisque la répression de la Commune, la Semaine sanglante, est évoquée par une des protagonistes. Et le film est absolument passionnant pour... c'est assez inédit, d'une part, de raconter cette histoire-là, de raconter à la fois la naissance du mouvement anarchiste, du mouvement ouvrier en Suisse, puisque le mouvement anarchiste international est né en Suisse, dans cette industrie horlogère précisément. Et Pierre Kropotkin, géographe russe, qui va traîner ses guêtres en Suisse et se rapprocher des ouvriers de l'horlogerie helvétique, va se prendre de passion, va être pris lui aussi de ce sentiment communautaire et utopiste que portent les ouvriers de l'horlogerie, et va se rapprocher, va lui-même se déclarer peu après anarchiste, et va être l'un des grands théoriciens du mouvement anarchiste international. Il va rencontrer une ouvrière, Joséphine, que j'évoquais tout à l'heure, qui est régleuse et qui ajuste les balanciers au sein des mécanismes. Alors, c'est important d'évoquer la forme de ce film qui est très très singulière. Dans son rythme, dans la diversité aussi des langues parlées, des temporalités, parce qu'il est sans cesse question du temps qu'il est, du temps que ça prend pour faire quelque chose. Et cette précision qui est celle des ouvriers et des ouvrières, on la retrouve dans la mise en scène, dans le sens des cadres. Ce qui est passionnant, c'est que Cyril Chaoblin s'est demandé comment donner forme à ces enjeux du mouvement anarchiste. Eh bien, en essayant de trouver de poser un regard égalitaire sur chacun des personnages, et sur chacun des personnages au sein d'un environnement plus large, paysager, environnemental en quelque sorte. Donc les êtres humains sont des êtres parmi d'autres, et vous verrez qu'il les tient un peu à distance, dans des plans généraux, des plans d'ensemble. Les paroles elles-mêmes sont un son parmi d'autres. Vous verrez que tout cela est très relativisé, ça en fait un film passionnant. Allez, je ne fais pas plus long, mais c'est un film très très intéressant, que Désordre donc, de Cyril Chaoblin, programmé pour 3 séances à partir de ce jeudi.
Puis-je voir vos papiers, s'il vous plaît ?
Kropotkin, Piotr.
Quel bonheur vous amène chez nous en Suisse.
Dear friend, I have arrived safely in the Swiss Jura Mountains. The valley is, with no doubt, the capital point of the international anarchist rotation circle.
Dans la montre, il y a le balancier, le spiral, l'échappement, d'où là vient le tic-tac de la montre. Comprenez ?
Vous avez des idées magnifiques.
La Commune de Paris ?
C'était un essai d'administrer la ville de Paris selon des principes anarchistes.
Après, ils se sont tous tués.
Anarchiste et nationaliste.
La rivière de Dominique Marché, c'est le film qui fait l'objet de notre séance spéciale cette semaine. On en est ravis, car c'est un très beau film. Il faut dire quand même que parmi les nombreux films documentaires à tendance écologiste, qui manifestent le souci de la préservation de la biodiversité, du renouvellement des pratiques dans l'agroécologie, ce genre de choses, on consacre nous-mêmes dans notre programmation et parmi les séances spéciales beaucoup de place à tous ces enjeux, et vous savez combien ils nous préoccupent. On voit hélas passer beaucoup de films d'un intérêt cinématographique très très limité. Et dans ce champ-là, parce que précisément aussi, ce n'est pas un militant, ni même un partisan, mais c'est quelqu'un d'intelligent et de sensible, Dominique Marché, qui se pose des questions de forme et de la place et de la forme qu'on donne à une parole écoutée, reçue, et comment la transmettre et comment la filmer. Dominique Marché a réalisé les plus beaux films documentaires sur ces problématiques depuis son tout premier long métrage en 2010, Le Temps des Grâces, que je vous recommande, c'est un très grand film. Mais en 2014, La Ligne de Partage des Eaux, en 2018, Nul Homme n'est une île, qu'il était venu à Fort Calquier présenter, il esquisse comme ça une filmographie extrêmement cohérente, où il garde la même rigueur, le même souci de la documentation, de la précision dans les informations qui sont données. Et là, il s'est soucié de la situation des rivières en France, évidemment de par le monde, mais pour cela, il s'est intéressé particulièrement aux rivières du Béarn, qu'on appelle les Gaves, qui prennent leur source dans les Pyrénées, qui vont se jeter dans l'Atlantique. Et il y a tout ce bassin fluvial des Gaves dans le Béarn, dans le sud-ouest. Et il est allé rencontrer, vraiment au sens large, tous les acteurs, les actrices de ces questions-là, de ces enjeux et de ces problématiques-là. Ça donne un film passionnant, qui évidemment nous interpelle quant à la situation aussi de nos rivières en France plus généralement, mais aussi chez nous, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, de la Durance notamment, et de tous ses affluents. Et c'est pour évoquer cette situation plus particulièrement locale que j'ai invité Françoise Sinoir de l'association SOS Durance, Nicolas Siard du syndicat mixte Val de Durance, mais aussi Magali Jameux du parc de Luberon, pour apporter des éclairages sur cette dimension locale, pour évoquer les rivières autour de chez nous, évoquer la biodiversité, la raréfaction de l'eau, la sécheresse, le sort des poissons évidemment, des oiseaux, enfin vous voyez, il y a tout un microcosme très très large qui est remis en question par cette triste évolution des rivières, et évoquer aussi un peu de lueur dans nos yeux, les efforts qui sont faits pour aller contre ce mouvement, hélas. Et c'est évidemment une très très bonne chose de prendre connaissance de toutes les initiatives qui sont faites en ce sens. Donc la séance du samedi 20 janvier à 18h sera suivie d'un échange et vous pourrez évidemment poser vos questions aux personnes présentes. Et puis je pense que vous en aurez beaucoup, peut-être vous-même qui m'écoutez avez des connaissances, des compétences sur le sujet. La rivière est donc programmée pour 3 séances et la première c'est le samedi 20 janvier à 18h.
Tu vois, il y a tout ce qu'il faut pour faire un ruisseau. Hein. Regarde, il y a les galets, il y a un lit qui est bien marqué, il y a des berges. Il manque juste un truc, quoi. Ben, c'est de l'eau, quoi.
Il y a des moments, je me dis, c'est foutu, ce qu'on fait, ça sert à rien. Puis après, sur des petits coups, comme par exemple nettoyer les embâcles, et derrière, où on voit les truites viennent se reproduire alors que précédemment, elles ne pouvaient pas accéder au ruisseau, ça nous donne des petits coups de boost. Et puis on se dit, bah, finalement, ça sert quand même à notre échelle, ce qu'on fait.
Qu'est-ce qu'on protège, en fait ? Plus on apprend à connaître ce qu'on protège, plus on a envie de le protéger.
C'est un peu comme une deuxième maison, quoi. C'est la rivière.
Allez, je vais peut-être accélérer un peu. Pour vous parler du film chinois de la semaine, Un hiver à Yangji, vous verrez qu'il y a quelque chose de très hivernal dans la programmation de ce programme, avec cette semaine un film chinois qui se passe aux abords de la frontière nord-coréenne et dans un paysage hivernal, le titre le dit, Un hiver à Yangji. La semaine prochaine, vous pourrez voir les films de ces cinéastes du Grand Nord, Anastasia Lapsui et Marcou Lemouskalio. Et puis la semaine suivante, ce sera un film de Mongolie. Et puis la dernière semaine, ce sera un film russe qui se passe en Sibérie. Vous voyez, il y a ce fil rouge qui nous tient à cœur. Et cette semaine, dès à présent, ce très beau film d'Anthony Chen, qui est un cinéaste de Singapour, qui a, en 2013, avait reçu la caméra d'or à Cannes pour son premier film « Ilo Ilo ». Avait suivi Wet Season. On verra, je crois, en 2024, un nouveau film qu'il a tourné hors de chez lui. Et celui-là, il l'a tourné en Chine du Nord avec une femme, deux hommes, et la complexe relation est très forte d'un point de vue sentimental, affectif, qui va se nouer en l'espace de quelques jours entre trois personnages, ce qui a fait dire à certains que ce film était une sorte de Jules et Jim, et on peut le dire, en effet, avec une certaine émotion, parce que le film brasse pas mal de sentiments. Et c'est intéressant d'entendre Anthony Chen dire comment il perçoit ce film lui-même. Il dit « Je pense qu'il existe des moments dans la vie où vous rencontrez un certain type de personne qui va vous laisser une impression profonde, susciter chez vous une grande émotion. Or, cette personne ne réapparaîtra jamais dans votre vie. Je pense que beaucoup de belles choses doivent leur beauté à leur impermanence, à leur dimension éphémère. Qu'elles deviennent belles justement parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans la durée. Et ça dit bien ce qu'il a recherché et toute l'intensité qui va naître en l'espace de quelques jours entre ces trois personnages. » Voilà. Le film sans doute vous touchera de manière très sensible par sa délicatesse, sa subtilité. On vous le recommande et ce film chinois En hiver à Yangji est programmé pour 3 séances cette semaine à compter de ce mercredi. Changement de registre complet pour un film qui lui-même en comporte plusieurs registres. C'est Vincent doit mourir, vous avez été nombreux et nombreux à nous le réclamer, voilà. Il trouve une place dans notre programmation à compter de ce jeudi à 16h et notamment ce vendredi soir à 21h mais aussi mardi 23 à 18h30. Le premier film de Stéphane Castan qui est un acteur de théâtre, de cinéma qui avait réalisé deux courts-métrages et qui lui aussi a porté à bout de bras ce premier long-métrage qui était à la Semaine de la Critique à Cannes avec Karim Leclou, cet excellent acteur que vous avez vu notamment pour évoquer les derniers mois ou les dernières années dans Bac Nord de Cédric Jiménez, dans Goutte d'or de Clément Cogitor, dans Pour la France, pour évoquer simplement les films qu'on a passés ces derniers mois à Fort-Calquier. À ses côtés, Vima Laponce, qui est toujours à la fois extrêmement touchante et drôle, qui semble presque reprendre son rôle de Vincent Napa d'Écaille, le film de Thomas Salvador en 2014. Mais vous l'avez vu chez Sébastien Bedbeder dans Marie et les naufragés, notamment dans La loi de la jungle, d'Antonin Perez-Chatko et dans Les garçons sauvages de Bertrand Mandicot. Elle est épatante ici auprès de Karim Leclou, qui joue donc Vincent, qui va être confronté à un déchaînement de violence. Je précise que le film est interdit au moins de 12 ans et qu'il y a des scènes quand même assez sensibles. Mais l'humour aussi du film et puis la dimension comédie romantique aussi vient relativiser un peu cette violence qui atteint le personnage principal dès le début, car il est pris d'une sorte de malédiction en quelque sorte. Il partage avec d'autres personnes dans le monde ce triste privilège en quelque sorte d'être désigné de manière inconsciente par son environnement comme quelqu'un qu'il faut frapper, agresser, à qui il faut s'en prendre. Il va se retrouver agressé à plusieurs reprises dès le début du film et va devoir fuir cette situation pour comprendre ce qui lui arrive. Le film n'est jamais plus explicatif que ça, et il va plutôt gérer cette situation sur un mode de survie, quoi. Ça devient un survival aussi, ce film, et on va comprendre toutes les méthodes, le quotidien qui va s'organiser pour ce Vincent, pour échapper à cette agressivité et y faire face, et pour ça, évidemment, changer radicalement de vie. Vincent doit mourir, de Stéphane Castan, film hautement recommandable et programmé pour 3 séances cette semaine.
J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi.
Ça fait combien de temps pour toi que des gens veulent te tuer? Prends-toi un chien, très important un chien. T'es livré à toi-même, les hôpitaux, c'est trop dangereux. Personne ne peut t'aider.
Tu t'appelles comment?
Vincent.
T'as pas l'impression, toi, des fois, que le monde entier t'en veut?
Ouais, ça m'arrive, ouais.
Fremont, c'est un premier film également. Un premier film américain d'un cinéaste iranien, mais dont le personnage et l'actrice principale, je crois bien, sont afghanes. En tout cas, le personnage principal est une jeune immigrée afghane qui débarqué depuis peu aux États-Unis, habite la petite ville de Fremont. Et le film est dans un noir et blanc, très beau, vous verrez l'image. L'actrice est épatante, elle aussi. Elle s'appelle Anaïta Walizada. Je crois qu'elle était arrivée elle-même aux États-Unis depuis peu. Elle avait quitté l'Afghanistan quelques mois auparavant. Elle est formidable, extrêmement touchante, alors qu'elle parle très peu. Globalement, il y a soit parfois des situations de dialogue assez fortes, mais bien souvent c'est un personnage mutique, assez traumatisé évidemment par la situation qu'elle a quittée, mais le film est jamais stigmatisant ou prend en tout cas cette réalité d'une manière décalée sans jamais la rejeter évidemment. Mais ce qui est très beau, c'est que ce personnage de réfugié afghane, d'immigré plutôt afghane, est sans cesse confronté à d'autres personnes issues de minorités ethniques et de diverses vagues d'immigration aux États-Unis. Et vous allez voir comment le réalisateur Babak Jalali, je n'avais pas dit son nom encore, traite avec beaucoup de poésie, un sens du burlesque affirmé, un décalage qui instaure une grande douceur dans la relation entre les personnes, et comment cette chronique du quotidien extrêmement monotone dans un premier temps de ce personnage, et le film évoque aussi par ce rythme et par ce noir et blanc beaucoup les films de Jim Jarmusch. Vous verrez, vous y penserez fatalement, et à commencer par l'un des derniers films de Jarmusch qui est un des plus beaux, Paterson, c'est aussi le nom d'une ville d'ailleurs, et vous allez voir la répétition comme ça de ce quotidien en apparence monotone pour finalement, dans le troisième tiers, vous verrez, ouvrir les portes grandement, et c'est vraiment toute l'émotion aussi que le film porte sur la fin, autour de ce personnage, et la bande-son est elle aussi plutôt réussie. Et je n'ai pas dit que cette jeune femme est employée dans une fabrique de fortune cookies, qui sont ces biscuits chinois qui contiennent des prédictions, des messages, et qu'elle va être amenée par son patron à rédiger elle-même ses messages, et elle va s'y consacrer avec une certaine méticulosité et un vrai investissement. Voilà, c'est donc Fremont qui a reçu le prix du jury au dernier festival de Deauville, qui est le festival du cinéma américain. Il est programmé dès ce mercredi 17, et pour la semaine, 3 séances, lui aussi.
Thank you. Where
are you from?
I'm from Afghanistan.
I've never met an Afghanistani before. You seem like a friendly people.
We are. I'm just not a good example.
Can I offer you a cup of coffee?
یعنی که کامل در کابل است و جانشان در خطر است و ما اینجا به دوست داشتن و عشق بگیم.
دلبار دلت برد مرد تدید چه موقعی بود؟
On en termine avec un film qui lui aussi fait place à une certaine violence, mais comment ne le ferait-il pas, puisque il raconte une histoire de la violence en quelque sorte. Le réalisateur Felipe Galvez est un cinéaste chilien qui a 40 ans, qui vit à Paris. Il a porté pendant 9 ans ce film-là. Il y a certains points communs avec La Dernière Reine d'ailleurs, sur la dimension historique, sur une façon de raconter une histoire qui n'avait pas été racontée en tout cas dans le cinéma national, et de, en l'occurrence ici particulièrement, d'offrir une alternative, comme il le faut aujourd'hui, comme beaucoup de cinéastes, d'écrivains le font, au récit national. L'histoire, c'est ce qu'il dit, Felipe Galvez, puisque c'est son nom, il raconte bien comment l'histoire du Chili telle qu'elle est racontée dans les écoles s'arrête en 1973, avec le coup d'État de Pinochet. On ne raconte pas la dictature, de même qu'on ne raconte pas l'extermination des populations autochtones au 19e siècle, encore au début du 20e siècle. Et on ne raconte pas du tout, notamment, l'histoire du génocide des Indiens Selknam par une sorte d'homme d'affaires de l'époque, au début du XXe siècle, qui, pour conquérir et ouvrir un territoire vers l'Atlantique, en Patagonie, puisque le film se passe en terre de feu, vraiment à l'extrême sud du Chili et de la Patagonie, va décimer les populations autochtones, indigènes. C'est cette histoire-là que raconte le film. Et ça vaut le coup de vous lire quelques extraits d'un entretien avec Felipe Galvez, le réalisateur. L'île de Dawson, en terre de feu, où l'action du film se passe, a été transformée dans les années 70 en camp de concentration puis d'extermination par la dictature de Pinochet, pour les membres du gouvernement et les proches d'Allende. Mais tout le monde a oublié qu'elle avait auparavant abrité un autre massacre contre les indigènes. D'où l'importance, pour comprendre notre histoire récente, de remonter plus loin, au temps de la colonisation des terres indiennes. Et cet homme qui avait acheté toutes ces terres au détriment des autochtones s'appelait Menendez. Et ce qui est incroyable, c'est que pour tourner aujourd'hui sur ces mêmes terres, Felipe Galvez tourne en fait sur des terres qui appartiennent aux descendants de ce même homme. C'est dire combien cette histoire, qui pourrait paraître ancienne, est totalement actuelle, évidemment. Et c'est tout l'effort et la réussite de ce film de raconter cette histoire et de le faire avec un certain souffle romanesque et épique lui aussi.
Creo que abro una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. El problema son los indios.
These are the lambs that belong to Menendez.
Voilà, on a essayé de faire au plus rapide et de vous parler avec enthousiasme des 7 films donc, qui font l'objet de cette semaine spéciale, un festival à notre mesure en quelque sorte et comme on les aime. Semaine du 17 au 23 janvier au cinéma Le Bourget, rappelez-vous, 5 euros la séance. Si vous prenez une carte de 4 places, ça revient à 4 euros la séance. Tout cela, vous le signalez à moi ou à Raphaël en caisse. Voilà, vous aurez l'occasion de vous faire un vrai festival avec possiblement 7 films à voir cette semaine, issus des 4 coins du monde, on vous le rappelle. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine sera bien belle elle aussi. À bientôt.